Agora Côte d'Azur. Boulevard de la Riviera.
Le magazine de la rédaction. Fatia Merfoud.
Sourire en bandoulière, en voilà un joli nom pour une association. J'accueille Alain Plat, le président de l'association, auteur, conteur et poète. C'est en 2005 que vous avez créé l'association Sourire en bandoulière. Elle édite principalement des livres de jeunesse et propose de nombreuses animations sous forme de spectacles, contes. Pour reprendre vos mots, 14 ans que vous vous baladez avec votre sourire en bandoulière.
C'est vrai, 15 presque. Ben, je trouvais que c'était une belle expression parce que... Et souvent d'ailleurs on me dit « Oh, quel joli nom pour une association ». Et je me suis rendu compte, parce que je vais aussi dans les hôpitaux pour les enfants, et je me suis rendu compte qu'effectivement, je me promenais avec mon sourire toujours, comme j'ai toujours un sac en bandoulière, toujours des carnets de notes, toujours des livres, toujours tout ça. Et je me suis dit, bah, finalement, c'est ce que je fais. Je me promène avec mon sourire et puis j'essaye d'envoyer des bonnes ondes.
Vous écrivez pour la jeunesse, dans chaque conte, dans chaque texte, vous sensibilisez la jeunesse, et plus encore, sur l'environnement, sur les plaisirs de la vie, sur la beauté, la musique, l'histoire, la vie locale également.
C'est vrai que depuis l'origine, j'essaye de tirer par le haut. J'essaye d'emmener, comme je vous disais, des bonnes ondes. Je trouve que le monde en a cruellement besoin. Et c'est vrai que quand j'ai démarré tout ça, au départ c'est né pour ma fille qui me ramassait des cailloux. Donc c'est né au bord de la plage, sur la plage à Roquemont-Cap-Martin. Et ma fille Aurélie me ramassait toujours des cailloux et j'en avais partout. Dans les sacs, dans la voiture, enfin bon. Et un jour elle a cherché un livre. Donc on est allé en librairie, en bibliothèque. Mais des livres sur les pierres, on va dire ludiques pour les enfants, il n'y en avait pas. Et moi j'ai toujours aimé la musique des mots. Alors comme on mangeait des chouchous sur la plage... J'ai dit, écoute, j'ai le nom du personnage, il va s'appeler Chouchou le petit caillou. Mais je voulais aussi que ces contes soient un moyen de partager des émotions le soir, dans la tradition de ce que ma mère me lisait, c'est-à-dire des grands contes où il y avait finalement beaucoup de textes, où je ne comprenais pas tout, mais finalement ce n'était pas grave, j'étais dans la bulle. Et cette bulle, j'ai essayé de la recréer pour qu'on partage un moment d'affect avec ma fille. Et ce moment-là qui vaut, je pense, tous les discours sur « il faut aimer la langue française »,« c'est important de lire », je pense que plus que des grands discours, il faut partager, et c'est ce que je dis depuis 15 ans, il faut partager des histoires avec les enfants, dès le plus jeune âge. Ne pas avoir peur s'ils ne comprennent pas tous les mots, ce n'est pas grave. Ce qui est, en fait, le livre, le conte du soir, c'est une excuse d'amour. C'est le moment où on prend l'enfant par le bras, au-dessus de l'épaule, on se fait des bisous de temps en temps, puis de temps en temps on pose des questions, on s'arrête, on ne fait pas une course quand on lit une histoire. Par contre, tout cet amour qui est donné autour du conte, finalement, charge le livre d'affection. Ce qui fait qu'un enfant plus tard, ou un adolescent, en fait, aura toujours cette mémoire de l'amour autour du livre. Et il n'aura jamais le même effet qu'un DVD, qu'un CD, qui n'a aucun affect finalement. Alors que le livre crée ça. Et même si les adolescents aujourd'hui, souvent j'entends les gens « oui, mais ils regardent que son portable, oui, mais ceci, oui, mais cela ». Oui, bien sûr, il y a un moment où il va décrocher. Moi, quand j'étais enfant, on jouait avec des jeux vidéo, il y avait deux raquettes qui renvoyaient une balle. Bon, une fois qu'on avait joué 10 fois, bon...
C'était le seul jeu. Chose,
voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, avec tout ce qu'ils ont, je comprends très bien qu'à l'adolescence, on y aille. Par contre, là, ce qui est important, c'est qu'avant cette période-là, il faut avoir eu cet affect autour du livre. Et pour moi, le combat, il est là, c'est entre 0 et 6 ans. C'est un combat poétique, mais il est là ce combat. Parce qu'à partir du moment où on partage ça, l'enfant, même si à un moment il va zapper tout ça, parce qu'il a envie d'autre chose et c'est
il
normal,
reviendra.
Il y reviendra parce qu'il y aura cet affect. Moi je dis souvent, vous mettez une terrasse de café avec un café et puis un livre, je suis le plus heureux des hommes, parce que j'ai connu toute cette affection autour du livre. Voilà, et c'est pour ça que depuis 15 ans, je me balade avec des histoires, des contes familiaux à partager, parce que je veux remettre les parents aussi à ce moment de lecture du soir. Donc souvent, quand je fais des salons du livre, on me dit « Oh là là, c'est à cause de vous que je suis obligé de lire Chouchou le petit caillou tous les soirs. » Bah, je dis « Écoutez, d'abord, c'est pas à cause de moi, c'est grâce à moi. » Et puis ensuite, c'est fait exprès. Je voulais pas d'un livre qu'un enfant puisse lire tout seul à 7 ans, parce qu'automatiquement, on va dans son vocabulaire à lui, qui n'est pas encore très riche et c'est normal. Donc moi, je voulais ramener des mots supplémentaires. Je voulais à chaque fois tirer par le haut qu'à la première, deuxième, troisième lecture, on apprenne des mots supplémentaires. Et au pire, on s'arrête, on demande « Papa, maman, ça veut dire quoi ?» Et puis au pire, on prend un dictionnaire, ça fait pas mal, hein, on se brûle pas, voilà. Donc amener cette culture du goût, de l'effort, de l'exigence, mais tout ça évidemment caché par le ludique, parce que pour amener les enfants à l'exigence, il faut d'abord les attraper comme les mouches avec du miel. Et moi, par ces histoires, je me rends compte que j'attrape les enfants. Et des fois, avec Chouchou, alors qu'il y a énormément de textes, à partir de 3 ans, ça fonctionne. Parce que les enfants sont dans cette bulle, ils y sont bien. Et c'est pour ça que les mots sont choisis sont importants. Parce qu'il ne faudra jamais oublier que les mots, ce ne sont que des notes de musique. Et c'est pour ça que je pense que je suis devenu conteur aussi. C'est parce qu'à partir du moment où on crée une bulle, on crée un univers. Et quand les gens sont bien dans cet univers, ils sont prêts à tout prendre, quel que soit leur âge. Pour moi, c'est ça, l'éthique, on va dire, de ce que je fais pour la jeunesse. Et souvent, je dis oui, ce sont des livres jeunesse, mais ce sont des livres familiaux. Pour ramener ce moment du conte le soir, on oublie un peu 5 minutes la télé ou le smartphone, mais on revient par chapitre pendant 5 minutes à cet échange autour du livre.
Et puis ce moment du soir de l'histoire est très important et marquera l'enfant.
Bien sûr, puis pour faire de beaux rêves aussi, c'est pour ça qu'il y a des bonnes ondes dans mes livres. J'ai pas envie de traumatiser les enfants avant qu'ils ferment les yeux, donc je les amène dans un monde poétique. Et puis un monde plein de beauté, c'est d'ailleurs pour ça que je parle de la planète après mes spectacles aux enfants, parce que je trouve que c'est important de connaître aussi l'histoire de la planète, de comprendre que tout bouge dans la vie. Je crois que par moments, on l'a un peu oublié.
2050, une mer dans l'océan, votre dernier ouvrage.
Oui, alors 2050, alors bon, moi je partage ma vie depuis 4 ans avec une Bretonne qui m'a fait adorer sa terre de Bretagne. Son Morbihan, d'ailleurs, je le dis aussi pour les auditeurs.
Sud et Nord.
Sud et Nord. Elle m'a fait comprendre, elle m'a fait réaliser surtout, qu'en fait le Morbihan est le seul département français qui n'a pas un nom français. Je n'y avais jamais pensé. Donc je le dis pour tout le monde parce que je pense que beaucoup de gens, en fait, ne se sont jamais posé la question. Et en fait, Morbihan, ça veut dire petite mer en breton. On comprend aussi par rapport au golfe de Vannes, etc. Et donc j'ai décidé d'écrire une histoire de lâcher ma Méditerranée, que j'ai souvent conté dans Chouchou le petit caillou, le sanctuaire marin, etc. Et d'aller un peu me promener dans l'océan. J'en avais surtout marre d'être l'idiot utile. C'est-à-dire l'idiot utile dans la mesure où on est beaucoup à parler de la planète aux enfants, on est beaucoup à parler de ceci, de cela, et puis en même temps rien ne change. Il y a toujours autant de plastique, si ce n'est plus, qui se fabrique, il y a toujours... Donc finalement, chacun fait son petit travail dans son coin. Les industriels se disent, c'est bien, il y a des beaux esprits éclairés qui parlent, c'est très bien, bravo pour ce que vous faites, c'est magnifique ce que vous faites.
Et puis
ils s'en foutent royalement. Donc du coup j'ai décidé de casser la bulle en plein milieu du conte. Ça fait 15 ans que je raconte des histoires, donc je sais la bulle que je mets en place quand je raconte. Et je vois que les gens sont plutôt décontractés, perdent quelques pulsations minutes, se sentent bien. Il y a des vieilles personnes, des fois, qui m'écoutent. Au bout d'un moment, ils ferment les yeux. Je sens qu'ils m'écoutent, ils sont bien, ils sont dans la musique des mots. Et là, j'ai eu envie de casser cette bulle au moment où les gens ne s'y attendent pas. Et de dire stop, on va arrêter maintenant les contes à dormir debout. Et c'est moi, Alain, qui me révolte contre mon propre texte.
Et là, vous mettez 3000 tonnes de plastique, viennent d'être fabriquées, une tonne toutes les 2 secondes, multipliées par 30 secondes, qui font les 3 tonnes par minute.
Et c'est l'équivalent, à peu près, il faut savoir que c'est l'équivalent de 25 éléphants adultes d'Afrique, toutes les 5 minutes qui finissent dans l'océan. Une fois qu'on a mesuré ça, là je l'ai compté au Grand Bivouac à Albertville, qui est un gros salon du livre, du voyage, d'éco-citoyenneté. Je l'ai compté devant 400 gamins sous un chapiteau. Et je peux vous dire que quand la porte, elle claque, que je dis stop, et que tout le monde réalise et que je projette une image d'éléphant, et je multiplie par 25 pour leur faire comprendre que pendant les 5 minutes du conte là, qui viennent de s'écouler, il s'est passé ça, on se rend compte à quel point on est les idiots utiles. Donc je ne suis pas dupe. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que souvent je dis, moi je suis un poète qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.
Bon.
Mais oui, je trouvais que ça aussi une bonne inspiration. Mais c'est vrai que c'est exactement ça, c'est-à-dire je ne suis pas dupe aussi, j'envoie mes histoires, je partage des bonnes ondes, mais il n'y a que le nombre, il n'y a que le nombre des gens qui vont prendre conscience que moi maintenant quand je compte, j'ai tout, ma thermos par exemple, voilà, j'achète plus de bouteilles, parce que je sais que beaucoup de bouteilles en plastique ne sont pas recyclables, on nous fait croire qu'elles sont recyclables, elles ne le sont pas, elles sont incinérées, comme les 3/4 des produits d'emballage, etc. Donc je sensibilise à tout ça en disant, vous connaissez beaucoup de produits, les enfants, qu'on achète et dans la seconde on le jette. Ça, il a fallu des milliards de tonnes chaque année de ressources naturelles de la planète pour fabriquer ça. Et dans la seconde, on le jette. Donc bien sûr, on ne va pas se priver de plastique aujourd'hui, parce que notre vie est faite que de ça. Par contre, il y a des plastiques qui peuvent avoir une utilisation longue, mais il y a des plastiques ou d'autres produits, des emballages, qu'on jette dans la seconde, alors que ça demande un nombre de ressources incroyables pour être fabriqué. Je veux dire, à partir du moment où chacun va prendre conscience de ça, il va peut-être faire des choix différents dans son achat, qui forcera les industriels à se dire, ben, notre produit, il y a trop d'emballage. Finalement, les gens maintenant deviennent de vrais éco-citoyens. Ils disent, non, j'aime votre produit, mais je ne veux pas qu'il soit autant emballé, parce que c'est tout ça qu'on jette et qu'on a puisé dans la terre. On nous parle beaucoup du climat aujourd'hui. C'est vrai, bien sûr qu'il y a du réchauffement. Mais je veux dire, du réchauffement, il y en a toujours eu. Depuis la dernière glaciation, il y a 10-12 000 ans, la Terre se réchauffe. Alors on accélère.
À une allure aujourd'hui.
Il se passe beaucoup de choses, c'est évident. Ce que je dis souvent, c'est que le problème qu'il y a aujourd'hui surtout, c'est qu'il y a 10 000 ans, quand ça s'est réchauffé, le Cro-Magnon, il a pris sa hutte et puis il l'a mis 100 mètres plus loin. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a tout construit comme si rien ne changeait, comme si tout était immuable. Alors forcément, ça pose des problèmes, parce que si le niveau de la mer monte d'un mètre, eh ben oui, il y en a eu plein qui ont eu envie de vivre au bord de la mer, ben ils pourront plus. Donc, mais c'est parce que c'est notre manière de concevoir la vie sur cette planète.
Est-ce qu'on est prêt à changer ?
Mais on sera obligé. Mais le drame, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de dire, ben, écoutez, tous les 10 000 ans, il s'est passé ça, bon, peut-être il faut construire un peu là, parce que si un jour... Il y a eu des problèmes parce que l'homme est insouciant, en fait. Et l'homme a toujours l'impression de se dire, ben, jusqu'ici, tout va bien. Et puis le jour où ça va mal, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est la panique générale. Au lieu d'avoir pris conscience qu'il faisait partie de cette planète intégrante, de ses changements, de ses évolutions, la Terre n'a pas arrêté de changer. J'avais écrit un roman dont en ce moment Sourire en bandoulière a récupéré les droits, que j'avais édité chez Le Pommier à Paris, donc créé par Michel Serres, maison d'édition créée par Michel Serres. C'est un voyage dans le temps qui se passe dans le Jura et les Alpes. C'est l'histoire de deux ados qui s'ennuient en cours de science comme je me suis ennuyé. Et aujourd'hui, je parle de la planète. J'ai l'erreur. Il y a tous les moments où, ping, c'est l'apocalypse qui veut dire révélation. Et finalement, on s'aperçoit que dans le Jura, les Alpes et en Suisse, sur 100 km carrés, il y a tout. Il y a eu les dinosaures parce que le Jura, ça ressemblait à la baie d'Along au Vietnam. Il y a eu les premiers hommes qui étaient installés au Salève, près de Genève. Il y a eu cet immense glacier à la place du lac Léman qui faisait 1 km de hauteur. Et c'est l'histoire de deux ados qui se baladent et qui vivent des expériences dans le temps, histoire de comprendre que la Terre a toujours connu des bouleversements. Et moi, là où je sensibilise les écoliers, en dehors de les transformer en super-héros de la planète, faire attention à l'eau, faire attention aux déchets, etc., tout ça, ben je leur dis attention, tout bouge. Mais on le voit dans la vie, même nous, on bouge, on change, on n'a plus les mêmes idées.
On évolue au même titre que la planète.
Or, en fait, on nous construit des mondes quelque part, qui sont immuables. Et les gens se disent, mais avant c'était mieux. Non, mais ça a toujours changé. Il faut juste s'adapter. Et moi, j'essaye d'inculquer ça aux enfants, de leur dire, attention les enfants, rien n'est jamais immuable. On peut toujours, il y a des bouleversements dans la vie. Il faut s'adapter. Si aujourd'hui on dit, attention, on est 9 milliards. Moi, quand j'étais gamin, on était 6 milliards. Donc il y a 3 milliards de gens qui consomment les ressources naturelles en plus. Donc bon, il faut penser autrement. Or, en fait, on voit que ça change pas vraiment économiquement. Au contraire, on nous invite à consommer, à surconsommer. Et tout ça parce que sinon le chômage, sinon le truc. Et puis finalement, on va où ? On va au bout de nos ressources naturelles. Et puis un jour, on va s'apercevoir qu'on vivait sur une planète merveilleuse. Et puis que c'est trop tard. Donc moi, je suis là pour en idiot utile, pour faire ma petite alarme à moi.
2050, une mer dans l'océan. On est loin du conte de la princesse qui attend son prince charmant.
Ouais, complètement. En fait, il y avait un autre ouvrage que j'avais écrit qui s'appelait « Graines de Carpe Diem », qui était plutôt pour ados, pour aider les adolescents justement à trouver leur chemin dans la vie, à se poser les bonnes questions, loin du monde qu'on leur vend à longueur de journée. Et pour moi, c'est important, hein, c'est important. D'habituer les enfants à l'esprit critique, et puis à aller au bout des choses. Quand je vois aujourd'hui énormément d'adolescents qui sont sur leur portable juste pour regarder des vidéos, je me dis alors que c'est un outil merveilleux. Je veux dire, on fait une recherche, on a le monde sur 3 cm carrés. Bien sûr, quand je vois les ressources dont a besoin un téléphone portable pour fonctionner, c'est juste, vaut mieux pas regarder, parce que sinon tout le monde jetterait ses téléphones portables. Mais en même temps, bon, on fait partie aussi de ce monde, faut pas tout jeter. Mais c'est vrai que oui, j'essaye qu'au moins les enfants ne soient pas dupes, et qu'au moins ils se posent des bonnes questions, et réalisent à quel point il y a la théorie et il y a la pratique.
On a besoin des deux. Menton et le fruit d'or, un de vos ouvrages aussi, édité par Sourire en bandoulière. Bonjour. Également. On apprend énormément sur la ville.
Oui, alors en fait, je me suis aperçu, un jour, je passais devant l'office de tourisme de Menton, et je me suis dit, bah, tiens, c'est bizarre, c'est vrai, je ne m'étais jamais posé la question comme ça. Il n'y a jamais eu de livre sur Menton et sur son fameux citron, sur son fruit d'or. Donc, il m'est venu une petite idée. Alors, j'avais eu plusieurs pistes, et puis finalement, j'ai imaginé qu'un citron en or était né sur les collines de la ville. Et comme ce citron ressemble à un Graal, le soleil ne brille plus que sur Menton. Alors les producteurs viennent du monde entier pour vaincre le mauvais sort et chasser les nuages du globe. Voilà le pitch de ce petit résumé de l'introduction du livre. Et donc c'est un conte humaniste sur Menton, et son citron. Il est magnifiquement illustré aussi, comme 2050, d'ailleurs par deux jeunes femmes. 2050 par Alexia Palmero, qui est sur Rocamune Cap Martin, qui m'a fait des très beaux dessins. Et Aimanton par Émilie Camat. J'aimais son style, je l'avais rencontré sur un salon. Et c'est vrai qu'en général, je demande à des illustrateurs de leur goût, on va dire, par rapport au projet que j'ai d'illustrer mes histoires. Mais du coup, voilà, j'ai voulu écrire un livre, une allégorie, on va dire, sur le citron de Menton et sur la ville, parce que je trouve que, d'ailleurs, j'avais mis un petit préambule dans ce livre, parce que je suis arrivé ici, j'avais 3 ans. Je suis né par les hasards de la vie en Savoie, mais en fait, je suis arrivé à 3 ans.
Un demi-siècle que je vis dans le pays mentonnais. Certes, le monde regorge de merveilles, mais quel sublime camp de base que cet écrin de montagne perçant les rivages de la Méditerranée, que ces chaudes couleurs du sud baignant le Kidam étaient comme hiver.
Oui, je trouve que c'est un merveilleux endroit. Je trouve que c'est une ville à taille humaine. Comme a dit un jour un ami, bon, tu as la cinquantaine aussi, donc ça te va bien maintenant. J'ai dit oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Quand on est jeune, on a souvent besoin de foule, de monde, de bruit, de cris, de fureur, comme disait Bergson. Mais en fait, maintenant, je trouve que d'abord cette vieille ville au bord de l'eau, c'est une vraie ville transfrontalière avec son charme franco-italien, son charme latin. Bon, c'est une ville que j'ai redécouvert aussi parce qu'il y a eu un partenariat avec la ville de Menton et avec le club Soroptimiste de Menton sur ce livre. Et la ville m'avait permis d'avoir un stand en début d'année, donc en février, quand il est sorti pendant la fête du citron. Et puis moi, c'est vrai que partout où je vais, je voyage beaucoup pour mes livres. Partout, je parle de Menton, de Gorbio, parce que je suis du coin. Et donc souvent les gens me disent « Oh là là, que c'est beau, quel bel endroit, etc. » Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'après la fête du citron, j'avais vu avec un producteur de citron mentonné et j'avais pris une corbeille avec plein de citrons. Et je montais, comme tous les mois de mars, je monte dans le Jura, dans l'Ain, où depuis 12 ans, je vais dans les écoles, tout ça. Et sur les salons du livre, je me souviens à Lons-le-Saunier ou à Oyonnax, j'avais cette corbeille avec tous ces citrons. Et les gens hallucinaient, il n'y a pas d'autre mot. Ils connaissent que les citrons d'Espagne. Et là, ils me disent, non mais c'est des citrons ça. Ils croyaient que les citrons c'était des cédras, quoi. Et ils ont dit, mais c'est incroyable. Mais je dis, mais c'est ça. Parce que c'est important aussi, quand on parle d'exigence avec les enfants, de parler aussi d'alimentation. De dire, écoutez, mangez mieux, mangez moins. Franchement. D'abord, quand on mange des choses de bonne qualité, ils sont gavés de nutriments. Donc finalement, on arrive beaucoup plus vite à satiété, on a moins faim. Et en plus, notre corps en a besoin. Je conseille d'ailleurs aux gens qui nous écoutent, il y a un podcast sur Arte, un documentaire sur l'alimentation et le cerveau. Moi, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences.
Ah, pour quelqu'un qui n'aimait pas la science, enfant.
Oui, comme quoi. Non, mais tout. C'est pour ça que la vie change, la Terre change. Moi aussi, j'ai changé, et heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a un documentaire absolument extraordinaire qui doit être en podcast sur Arte, sur les liens qui commencent à être faits en neurosciences sur l'alimentation et le cerveau. Et il y avait une série, je crois, qui s'appelait « Demain tous crétins ». Et en fait, ils commencent à mesurer les impacts de la malbouffe sur les cerveaux et de voir les zones qui se développent, celles qui arrêtent de se développer, parce qu'il n'y a plus de nutriments. Donc c'est pour ça que, bon, moi j'ai la chance, ma compagne adore manger bio. Donc du coup, je mange des trucs que je n'ai jamais goûté de ma vie, des pousses germées, des choses hallucinantes pour moi, hein, des algues. Mais en même temps, je découvre des aliments d'abord excellent, et ensuite souvent je vois que les quantités se réduisent. Et en fait les quantités se réduisent et je n'ai plus faim. Et je me dis c'est incroyable. Alors que moi, si je suis tout seul, comme les trois quarts des mecs on va dire, bon allez on y va, on se met la grosse assiette, mais finalement souvent après je me gave de fromage, donc ça sert à rien. Et en fait parce que j'ai pris aussi des mauvaises habitudes alimentaires. Donc quelque part, si on devient exigeant dans un domaine, faut l'être à peu près partout et essayer de réfléchir à ce qu'on nous propose. Et à faire nos choix en fonction d'eux. Moi, je découvre beaucoup de choses. Mais c'est là où je suis comme un gamin, mais je suis heureux. Je suis un gamin de 56 ans et je suis heureux. Parce que je pense qu'il faut creuser. Et c'est là où il faut creuser les infos, voir un petit peu, goûter, tester, réfléchir. Moi, j'aimerais beaucoup que dans les écoles, il y ait des cours un peu d'autonomie. Ça, j'en rêve depuis des années, en disant, écoutez, on est tous différents. On a tous notre talent, ce que j'apprends aux enfants dans Graines de Carpe Diem. Trouvez votre talent. N'essayez pas d'être bon là où vous ne le serez jamais, ça ne sert à rien. Par contre, là où vous avez un petit talent, allez-y, cultivez-le, mettez-y du travail. Et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie parce que ça sera votre passion.
Là, il faudrait autant d'écoles qu'il y a de gamins.
Presque, presque. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, voilà, tout se retrouve finalement, que ce soit par l'alimentation ou la vie de la planète. On le voit bien aujourd'hui dans les sujets d'actualité, sur les pesticides, sur ceci, sur cela. On a tellement chargé la Terre que maintenant, si on ne la charge pas encore, il n'y a plus rien qui sort, quoi. Voilà, ça fait partie de tout ça. C'est une vraie réflexion, mais je trouve qu'on arrive à un moment merveilleux parce qu'on est un peu au pied du mur sur beaucoup de sujets. Et je trouve que c'est un moment merveilleux où, au lieu de consommer, au lieu de faire les choses un peu basiquement, la tête dans le guidon, comme on l'a toujours fait, et ça, pour moi, c'est important. De se poser des vraies questions, de se rendre compte qu'on est, voilà, on est une personne qui peut réfléchir, penser autrement par rapport à la doxa des fois ambiante, et se dire, bon, où est ma vérité, où est la vérité d'un être humain aujourd'hui, en 2019, sur cette planète. Moi, j'essaye de faire ça avec les enfants.
Ah bien, si vous voulez rencontrer Alain Plat, on vous retrouve avec... un autre écrivain, Bernard Laboureau, au Clémenceau, ici à Menton.
Plusieurs rendez-vous sur le Mentonnais. Il y a samedi de 9h à 13h au restaurant Le Clémenceau, près du marché, à Menton, avec l'ami Bernard Laboureau. Et alors, c'est toujours drôle parce qu'au marché, on rencontre des gens hauts en couleur aussi, qui découvrent nos livres. Et puis ensuite, il y a mardi, l'association ouvrira, puisque moi, je vis sur Gorbio. J'offrirai un moment de compte aux écoliers du primaire, l'histoire d'un petit enfant qui part à l'école le matin. Et c'est Journal d'un Martinet que j'avais écrit pour mon fils. Et ses départs à l'école. C'était le seul enfant sur le chemin de l'école qui prenait le temps de s'arrêter. Parce que j'ai horreur de stresser, donc je le réveillais avant. Il râlait un peu. Mais aujourd'hui, il a 20 ans, il s'en souvient. Et on avait le temps de caresser les chats du village. Et puis c'était le seul enfant qui prenait le temps de s'arrêter pour cueillir des coquelicots pour son institutrice. Tant et si bien que ça a été son surnom, un magnifique pseudonyme, pendant toute sa scolarité en primaire. Et son instit l'appelait Lolo Coquelicot. Parce qu'il volait avec son papa des petits moments de bonheur à Chronos, l'implacable dieu du temps. Donc je vais compter ça mardi à l'école de Gorbio, où mes enfants étaient scolarisés.
Mardi 12 novembre.
Mardi 12. Et puis mercredi, il y a un gros rendez-vous à la bibliothèque municipale de Menton, l'Odyssée. Ça va être une lecture comptée de Menton et le Fruit d'Or. Donc il va y avoir une vidéoprojection.
À 15h.
Avec mise en musique. Et puis avec une musique que m'a gentiment permis d'utiliser le groupe La Capeline. Très très beau morceau, un très vieux morceau, qui a presque des sonorités grecques. On dirait presque qu'Anthony Quinn va venir danser là. Un merveilleux morceau. Et puis il y a des sons aussi, forcément. Et dans la foulée, je ferai une lecture comptée de 2050, Une mer dans l'océan. Cette histoire sur l'éco-citoyenneté. Donc c'est à 15h mercredi.
Et le 23 novembre.
Et le 23 novembre, oui, il y a une dédicace prévue à la librairie.
Dans les jardins Biovès.
C'est les prochains rendez-vous. Et puis après, bien sûr, fin novembre, début décembre, il y aura comme chaque année le Salon du Livre de Roquebrune-Cap-Martin, où je serai présent pour mes ouvrages. Voilà, je suis un peu dans le Mentonnais ces temps-ci. Juste un dernier petit mot. Il y a des contes qui sont enregistrés, qui vont l'être aussi sur Radio Agora, d'ailleurs, bientôt.
Vous avez dévoilé ma surprise.
Zut, pour un coup au montage. Non, c'est pas possible. Non. Mais voilà, il y a beaucoup d'infos aussi sur le site internet sourireenbandoulière.com et il y a une page pour l'association sur Facebook Sourire en Bandoulière. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir un petit peu les activités de l'association. C'est vrai qu'il y a très peu, on est 4 membres, on est très peu. Je voulais pas faire du nombre, mais par contre, je voulais faire beaucoup d'actions.
Et de la qualité.
La qualité, puis voilà, faire découvrir aussi le travail de beaucoup d'illustrateurs qui ont beaucoup de talent. Donc, le chemin poétique de Sourire en Bandoulière, et peut-être un tout dernier mot, une phrase que j'avais prise pour un conte de Noël, Gaspard ou les enfants de l'espoir, que j'avais créée il y a 10 ans, quasiment, jour pour jour, pour le JT de TF1, du jour de Noël. Et j'avais pris dans ce petit conte pour enfants sur le don de soi, sur l'autre, alors que c'est la période où c'est « je veux, je veux ». J'avais pris une phrase de Jean Giono qui disait « le poète est un professeur d'espérance ». Et voilà, je trouve que ça résume bien un peu notre action auprès des enfants.
Puisque vous avez révélé, Alain, la surprise, eh bien, sachez à nouveau que Alain Plat comptera chaque semaine une histoire sur notre antenne. Il vous mettra le sourire en bandoulière, on compte sur vous Alain, à travers une pastille radiophonique, les mots d'Alain. Ça sonne bien.
Ah, ça sonne bien.
On peut vous demander de fermer le magazine, peut-être avec de ces deux ouvrages.
Oh, on va faire Menton, allez, pour la première.
Allez, Menton.
Je vais laisser le suspense pour après. Hein.
Voilà, et vous pourrez retrouver donc toutes les informations complémentaires sur l'association Sourire en Bandoulière, directement sur le net. Hein.
Oui, bien sûr. Alors, on est parti pour Menton et le Fruit d'Or. Toute la ville ne parlait que de ça. Des ruelles obscures de la vieille cité jusqu'aux allées du marché se faufilait une étrange rumeur. Certains y croyaient, d'autres attendaient de voir. Mais tous n'avaient plus désormais qu'une seule phrase à la bouche. Il est né, il est né. Sur le flanc d'une colline, surplombant la mer, un agrumiculteur amusé observait du matin au soir de drôles de curieux s'aventurer aux abords de sa propriété. Noël approchait, et on aurait dit que tous les Mentonnais attendaient leur cadeau, et qu'ils viendraient, à n'en pas douter, des hauteurs verdoyantes de la ville. Intrigué, le journal local ne tarda pas à s'emparer de l'affaire. Il s'ensuivit alors une effervescence de commentaires plus ou moins ubuesques sur la taille et le poids d'un citron que l'on disait extraordinaire. Jour après jour, de véritables processions s'organisaient sur la dite colline. Les badauds, avides de sensations, semblaient guetter le Graal étincelant. Au bout de quelques semaines, n'y tenant plus, le propriétaire dévoila enfin le secret tant gardé. Un citron d'une beauté et d'une envergure encore inégalées venait de voir le jour sur l'un des plus fameux citronniers de Menton. Il annonçait même, avec une certaine emphase, qu'il serait l'hôte, en février prochain, de la célèbre fête du citron, une véritable apothéose. Car miracle des plus prodigieux, ce citron était d'or, du plus pur qui soit, et que la terre n'ait jamais pu offrir.
Merci Alain, et avec le petit accent du mentonnet.
Agora Côte d'Azur, boulevard de la Riviera,
le magazine de la rédaction. Fatia Merfoud.
Agora Côte d'Azur,
à Menton en FM sur 88.9.